Il est 5h sur Europe 1. Toujours pas assez de femmes à des postes à responsabilité dans les entreprises. Le long chemin de la parité au cœur de la proposition de loi examinée cet après-midi au Sénat. Elle prévoit 40% de femmes dans les comités de direction et comités exécutifs d'ici 2030. On en est à 27% seulement aujourd'hui. On entendra la réaction de la PDG du groupe Française des Jeux qui défend cette politique des quotas. Stupéfiant, il gérait jusqu'à une tonne de cocaïne par semaine. Un réseau démantelé à Bruxelles après une vaste opération de police. Une soixantaine de trafiquants arrêtés. Était en Belgique devenue la porte d'entrée de la drogue en Europe. Et puis 28 millions d'enfants américains vont peut-être bientôt être vaccinés contre le Covid aux États-Unis. Est-ce envisageable en France ? Réponse dans ce journal.
Europe Matin. Blin Roche et Julien Pierce.
Et le premier journal de ce mercredi vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. 11 femmes seulement à la tête des 120 plus grandes sociétés cotées en France. Pas assez, si bien que 10 ans après la loi Copé-Zimmermann, une proposition de loi de la majorité sur la parité sera en discussion cet après-midi au Sénat. Elle a déjà été adoptée à l'Assemblée en mai dernier. Si la France est la championne de la parité dans les conseils d'administration, elle est à la traîne pour ses cadres dirigeants. Les explications, Virginie.
Avec désormais 45% de femmes dans les conseils d'administration, la France fait partie des premiers pays dans le monde à avoir féminisé ses grandes entreprises cotées. C'est grâce à la loi parité votée il y a 10 ans, mais la loi ne fixait en revanche aucun quota pour les comités de direction ou les comités exécutifs, vraies instances décisionnaires des entreprises. Elles ne sont donc que 27% à y être représentées. La loi Rixin-Castaner propose comme objectif 30% d'ici 2027 et 40% d'ici 2030 pour toutes les entreprises de plus de 1000 salariés, sous peine de sanctions financières. Elisabeth Moreno, ministre en charge de l'égalité hommes-femmes.
Je n'ai pas peur de dire que cette loi va être historique. Nous espérons qu'avec cette loi de Marie-Pierre Rixin et Christophe Castaner, bien nous arrivions au niveau des comités de direction et des COMEX, parce que c'est là que les décisions se prennent et que ces décisions concernent à la fois les femmes et les hommes de notre pays et qu'il est normal que les femmes aient la possibilité d'apporter leur voix.
Une loi qui s'adresse plus généralement à toutes les femmes. Elle propose que la banque publique BPI France investisse davantage dans les projets de femmes entrepreneurs ou garantisse des places réservées en crèche pour les familles monoparentales. Le gouvernement se veut confiant sur ses chances d'être adopté rapidement.
Virginie Riva, journaliste société sur Europe 1.
Et 40% d'ici 2030, c'est une très bonne nouvelle pour Stéphane Pallet, la PDG du groupe Française des Jeux.
Le quota, c'est un moyen et il n'y a aucune honte. Il accélère le changement. Ce n'est pas lui qui le provoque. Le changement, il est là. Le quota sert à l'accélérer et peut-être notamment à faire disparaître quelques préjugés ou quelques biais de représentation. Je suis comme beaucoup d'autres femmes qui n'ont aucune difficulté à dire qu'elles ont été nommées dans des conseils d'administration, peut-être pas seulement à cause des quotas, mais que ça a accéléré le renouvellement des conseils d'administration. En tant que dirigeante, je me sens une certaine responsabilité, déjà à montrer que oui, donc c'est possible d'être une femme dirigeante et à ce que, effectivement, cet exemple puisse en inspirer d'autres dans les entreprises que je connais.
Stéphane Pallet, la PDG du groupe Française des Jeux, jointe par Élise Dangean pour Europe 1.
Énorme coup de filet hier en Belgique, plus de 1500 policiers mobilisés.
Oui, une vaste opération contre un réseau de trafiquants qui gérait une tonne de cocaïne par semaine, 64 personnes arrêtées, 6 laboratoires démantelés et 1 million d'euros saisis. Aucun doute, la Belgique est devenue une plaque tournante du trafic de drogue. Isabelle Horry, vous êtes notre correspondante à Bruxelles. La région d'Anvers détient même le triste titre de premier port européen d'importation de la cocaïne.
Oui, et c'est en partie à cause de sa spécialisation dans la logistique, explique très sérieusement le procureur fédéral belge. D'abord, il y a le port d'Anvers, l'un des plus grands d'Europe, mais Bruxelles est aussi un point névralgique sur le continent pour le transit de nombreuses marchandises. Les trafiquants ont su tirer profit de cette situation, explique Eric Jacobs, c'est le chef de la police judiciaire de Bruxelles.
Ça fonctionne comme un aéroport hub. C'est-à-dire qu'on importe de partout dans le monde de la cocaïne ici, mais il faut l'extraire d'autres produits, comme ça on évite les scanners, etc. Elle vient ici, et là avec d'autres produits chimiques, on fait un processus pour extraire la cocaïne, et de là ça part, comme dans un hub, vers tous les aéroports ou des endroits par la route européens.
Cachée dans des fruits ou des poupées, la cocaïne arrivait d'Amérique du Sud par conteneur ou via des jets privés. Elle repartait ensuite vers la France, l'Italie ou l'Allemagne. 6 laboratoires ont été démantelés dans la capitale belge. Il en sortait une tonne de cocaïne par semaine, selon les enquêteurs. C'est la messagerie des trafiquants qui les a trahis. Elle a été décryptée il y a quelques mois par les polices belges, néerlandaises et françaises, ce qui a permis d'identifier les chefs du réseau. Des Colombiens ont même été arrêtés.
Isabelle Horry, correspondante Europe 1 à Bruxelles. C'est notamment le réseau de communication Sky ECC que les groupes criminels utilisaient. 700 millions de messages ont été décryptés par les enquêteurs.
Direction à présent Budapest, en Hongrie, où Marine Le Pen a été accueillie comme une chef d'État hier.
Oui. Tapis rouge, déjeuner avec le Premier ministre Viktor Orban, suivi d'une déclaration commune. Un mois après les déplacements d'Éric Zemmour et Marion Maréchal, Alexandre Chauveau, en se rendant en Hongrie, la candidate Rassemblement National voulait confirmer sa stature de chef d'État.
Oui, et le décor était symbolique. Deux drapeaux hongrois derrière Viktor Orban, deux drapeaux français derrière Marine Le Pen et un détail qui n'en est pas un, l'absence de drapeau européen. La candidate du Rassemblement National a ensuite prononcé un discours d'une dizaine de minutes avec une cible principale, l'Union européenne.
L'Union européenne n'est plus, nous le savons, une organisation internationale. Elle a dérivé en organisation fédérale, puis en véritable pouvoir centralisé bruxellois, enivré de sa propre existence, de sa puissance, de son omnipotence.
Marine Le Pen a également loué la politique familiale et migratoire de Viktor Orban, dont elle souhaite s'inspirer en cas d'élection en 2022. Son déplacement s'inscrit également dans une volonté de se démarquer d'Éric Zemmour, reçu lui aussi à Budapest il y a un mois, mais pour un sommet sur la démographie et en qualité d'intellectuel. Elle a été reçue en tant que responsable politique et a bénéficié d'un accueil protocolaire, signe selon son entourage de la crédibilité de sa candidature à l'Élysée.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Marine Le Pen a par ailleurs refusé de critiquer la récente loi anti-LGBT hongroise à l'origine de nombreuses tensions avec Bruxelles. Elle n'a selon elle pas de leçon à donner au peuple magyar.
Les Britanniques, de plus en plus inquiets sur l'état de santé de la reine Elisabeth II. Sur avis médical, elle renonce à participer à la COP26 organisée à Glasgow. Elle devait assister à la réception des chefs d'État lundi prochain. La semaine dernière, la reine, âgée de 95 ans, avait passé une nuit à l'hôpital pour y subir des examens préliminaires.
Vacciner les petits contre le Covid, les 5-11 ans, c'est pour bientôt aux États-Unis.
Les autorités sanitaires américaines devraient donner leur feu vert la semaine prochaine à l'injection du sérum Pfizer pour les 28 millions d'enfants de cette tranche d'âge. Objectif, vacciner au moins la moitié d'entre eux avant Noël. Alors, peut-on imaginer le même scénario en France? Les réponses d'Afsane Saboui.
En ce moment, nous n'avons pas du tout la situation épidémique des États-Unis. Ils frisent les 200 nouveaux cas pour 100 000 habitants quand on est en France à 55 en moyenne. Le virus y circule donc encore beaucoup, notamment dans les écoles, d'où leur hâte en fait à vacciner les plus jeunes. Chez nous, la balance bénéfice-risque dans cette tranche d'âge n'est pas la même, comme l'explique Philippe Amouyel, épidémiologiste au CHU de Lille.
Un des gros problèmes des États-Unis, c'est l'augmentation massive de l'obésité, qui favorise les formes graves. Alors, on a une petite tendance en France, le degré est moindre, et c'est à la lumière de cette balance bénéfice-risque adaptée à notre pays qu'on verra si la décision peut être prise, parce que la balance est en faveur du bénéfice et non pas du risque.
Le risque, ce serait par exemple des myocardites. Alors il n'y en a eu aucune chez les enfants vaccinés pendant les essais cliniques. Et là, la campagne de cet automne aux États-Unis, ça va être un peu la démonstration à grande échelle. Et l'avantage pour nous, c'est que si nos agences doivent décider de vacciner les enfants parce que l'épidémie reflambe cet hiver, elles auront beaucoup plus de données sur lesquelles s'appuyer.
Afsane Saboui, journaliste santé sur Europe 1. En France, justement, Olivier Véran a annoncé hier avoir reçu sa troisième dose de vaccin contre le Covid. Le ministre de la Santé qui appelle toutes les personnes concernées par cette dose de rappel à le faire. Pour le moment, seuls 2 500 000 Français sur les 6 800 000 qui peuvent y prétendre l'ont fait.
Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec non pas un fromage, mais un tableau.
L'une des multiples aquarelles du peintre Gustave Moreau, représentant les fables de La Fontaine. Cachées depuis plus d'un siècle, elles sont exposées à partir d'aujourd'hui au musée du même nom, Gustave Moreau, à Paris. Moreau, La Fontaine, l'union de deux grands maîtres, Marie Jiquel.
Lorsque son mécène lui demande d'illustrer les fables, Gustave Moreau est un peintre connu, élu à l'Académie des Beaux-Arts. Mais il va devoir réapprendre à dessiner les animaux, c'est ce que nous raconte Marie-Cécile Forest, la directrice du musée Gustave Moreau.
Ce travail sur les fables, il va aller beaucoup beaucoup au muséum, croquer l'éléphant Bangkok, le lion du Soudan. Il va puiser dans son propre fond des photographies de moutons, des photographies de poules, par exemple pour la cigale et la fourmi.
Des animaux pour instruire les hommes, c'est ainsi que La Fontaine définissait ses fables, ici transposées en aquarelle, très bien conservées et donc aux couleurs étonnamment éclatantes.
C'était une exposition absolument inespérée, puisque personne n'a vu ces œuvres qui n'ont pas été exposées depuis 1906. Pour moi, cette exposition, c'est chef-d'œuvre contre chef-d'œuvre.
La morale de cette exposition, c'est l'occasion l'occasion de découvrir d'autres fables que la cigale et la fourmi, comme la tortue et les deux canards ou les vautours et les pigeons.
Marie Jiquel du service culture d'Europe 1, l'exposition Les Fables de La Fontaine, c'est jusqu'au 28 février 2022 au musée Gustave Moreau dans le 9e arrondissement de Paris. Billets à partir de 7 euros.
C'est noté, merci beaucoup Alban Leprince pour ce journal.
Il est 5h10 et on passe aux courses. Le pari gagnant de Thierry Léger, bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome d'Anguin et mon pari gagnant sera le 304 Jelica Vedakez. Cette pouliche remarquablement bien née, issue du craque étalon Ready Cash, n'a pas raté ses débuts le 3 octobre sur l'hippodrome d'Alençon, où en dépit d'un départ catastrophique, elle s'est imposée de toute une classe, n'étant jamais réellement inquiétée. La facilité avec laquelle elle a triomphé ce jour-là me permet de vous affirmer qu'elle devrait pouvoir enchaîner un nouveau succès et demeurer ainsi invaincue. Notez bien, pour cet après-midi à Anguin, réunion 1, dans la troisième course, le numéro 4, Jelica Vedakez.
Et vous revenez dans une demi-heure pour vos pronostics du Quintet. Merci Thierry Léger. Bon réveil avec Europe 1 à suivre votre revue de presse décalée.
Et au menu du pressing ce matin, les déçus du marathon de New York, des fruits et légumes en carton et un monstre hors de contrôle. À tout de suite.
Et Julien Pierce sur Europe 1.
Merci de partager ce moment avec nous. Très bon réveil. 5h12, c'est l'heure du pressing. Et comme chaque jour, nous sommes trois à feuilleter les journaux du matin. Bonjour Martin Lange.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Martin, on commence comme chaque matin avec les unes de vos journaux. La situation est compliquée, c'est le constat signé Olivier Véran à la une de Libération. Le quotidien publie un entretien avec le ministre de la Santé qui reconnaît une conjoncture préoccupante dans nos hôpitaux. Fermeture de 20% des lits par manque de personnel, démission de soignants en pagaille. Et tout ça alors que l'épidémie de Covid repart à la hausse en France. Un tout autre sujet à la une du Figaro. À 6 mois du vote, la France, plus que jamais à droite, titre le journal qui révèle la dernière enquête de la Fondapol. 56% des Français pourraient voter pour un candidat de droite, voire au-delà, que ce soit Xavier Bertrand, Marine Le Pen ou encore Éric Zemmour. Et puis, tout sauf neutre, c'est le titre de l'équipe alors que va se rejouer ce soir le match Nice-Marseille au stade de l'Aube à 3. Rencontre qui avait été interrompue en août dernier après de graves incidents entre supporters des Aiglons et les joueurs de l'Olympique de Marseille. Voilà pour les unes. Omblin, quel article avez-vous retenu ce matin ?
Seriez-vous prêt à traverser l'océan, parcourir 42 km une fois que vous avez traversé l'océan, hein. 42 km à
oui,
pied.
Oui, ça fait un petit océan sinon.
Oui. Alors 42 km en courant, hein, plus précisément, poursuivre pendant 4h30 et souffler jusqu'à vomir, mais dans les rues et sur les ponts d'une des plus belles villes du monde. J'en suis sûre, vous êtes prêts messieurs, et eh bien vous faites partie sans aucun doute des 50 000 mordus du marathon de New York. 50 000, c'est la moyenne chaque année. Cette fois-ci, ils ne seront que 33 000 et en fait, sachez que c'est beaucoup moins. Et pour cause, les frontières des États-Unis vont ouvrir le 8 novembre. Sauf que la course, c'est le 7. C'est le 7 novembre,
c'est
la veille.
Bon.
Voilà, c'est ce qu'on apprend dans le Parisien aujourd'hui en France. Les marathoniens français n'ont donc pas le droit de poser leurs baskets sur le sol américain. Pour eux, la course de New York, c'est le Graal, lit-on dans l'article. Après celle de Paris, évidemment, des marathoniens français. Déjà privés de course l'an dernier, eh bien rebelote en 2021. Douche froide, coup de massue, bref, immense désillusion pour les membres de France Marathon. 400 coureurs étaient prêts à monter dans l'avion, dossard accroché au maillot. Sachez que les agences de voyage s'étaient plutôt montré méfiante, hein, avait proposé avant même les annonces de la Maison Blanche de reporter les voyages vers New York à l'an prochain ou de les rembourser carrément et totalement. La facture s'élève à 2500 euros le séjour et à ce prix, vous ajoutez, ça c'est juste le séjour pour y aller et pour dormir évidemment, vous ajoutez 500 euros le dossard. Et pour le dossard,
500 euros l'inscription.
Ouais. Ah oui. Mais là, on rembourse que la moitié des dossards. Donc ceux qui se sont inscrits avant les déclarations de la Maison Blanche, eh bien, ils ont 250 euros pour leur poche. Les déçus sont donc très nombreux. Le journal raconte par exemple l'histoire d'Amandine, à qui on a diagnostiqué une maladie auto-immune il y a 2 ans, coureuse aguerrie, marathonienne confirmée. Elle n'y allait pas pour la performance, mais pour le symbole. Finalement, Amandine ira courir à Deauville. Dans quelques jours, c'est moins loin.
D'autres et ont c'est moins cher.
Voilà. D'autres ont choisi...
Quoique, ouais.
Ça dépend quelle rue. Les planches ou... D'autres ont choisi le marathon du lac Majeur en Italie, organisé le même jour que celui de New York. Tous ces coureurs ultra entraînés, ultra motivés doivent, quoi qu'il arrive, chausser leur running pour ne pas ruminer leur frustration. Le marathon de New York, organisé la veille de la réouverture des frontières américaines, c'est quand même ballot. C'est un article du Parisien aujourd'hui en France.
Merci beaucoup, Omblin. Martin, à vous.
Et une question ce matin, elle est pour vous, Julien. Qu'ont les Britanniques en plus de nous, Français ?
Le pudding.
Le bacon.
On est sur la nourriture.
De l'imagination.
Ah bon ?
Pour masquer les pénuries de produits frais et éviter de proposer des étals vides à leurs clients, plusieurs chaînes de supermarchés ont une idée qu'on peut qualifier de géniale. Remplacer ces légumes frais par des légumes en carton. Des grandes chaînes comme Tesco ou Sainsbury ont notamment adopté cette technique commerciale révolutionnaire qui a été immédiatement moquée sur les réseaux sociaux, bien sûr. Hein,
parce que
c'est vrai qu'en matière d'humour et d'autodérision, les Anglais ne sont pas mauvais non plus. J'adore ces asperges géantes, hein, c'est grâce à notre climat, j'en suis sûr, encore délicieuses carottes en carton ce matin chez Tesco. D'autres supermarchés ont préféré remplacer leurs produits frais par des bonbons, des chips ou des sauces. C'est plus simple, certes, mais pas certain que ça aide les Britanniques à lutter contre l'obésité.
Et des pénuries, Martin, elles sont dues à quoi, au Brexit ?
Oui, on vous en a déjà parlé sur cette antenne. Hein, le Royaume-Uni souffre d'une immense pénurie de main-d'œuvre, notamment de chauffeurs routiers qui venaient pour beaucoup des pays de l'Est de l'Europe et qui ne peuvent plus désormais traverser la Manche sans permis de travail. Ils n'approvisionnent donc plus les supermarchés, ce qui explique en grande partie ces rayons vides. Mais selon un spécialiste de la grande distribution interrogé par The Guardian, ces problèmes d'approvisionnement ne sont pas uniquement liés aux pénuries. Il y a aussi un vrai problème structurel. Les supermarchés sont désormais beaucoup trop grands en Grande-Bretagne. Ils ont particulièrement souffert de l'arrivée sur le marché des concurrents low cost qui proposent jusqu'à 10 fois moins de références dans leurs boutiques. Alors, pour rester compétitifs, ils ont dû eux aussi baisser le nombre de produits qu'ils proposent à leurs clients. Mais forcément, dans leur gigantesque hangar, ça se voit. Et les rayons vides sont quasiment devenus une habitude outre-Manche. Au Royaume-Uni, ces supermarchés font tout pour cacher les pénuries, c'est-à-dire sur le site du Huffington Post.
L'histoire ne raconte pas si ça cartonne.
Oh, excellent.
Des fruits et des légumes en carton.
Voilà.
Et ils ont plus d'imagination, vous dites. Oui, c'est vrai.
Et imaginez que les gens puissent passer outre et ne pas remarquer, c'est assez, oui, assez dingue.
C'est fou. Ouais.
Merci Martin. Est-ce que, une question à présent,
encore,
est-ce que vous aimez vous faire peur, les amis, comme regarder un film d'horreur, par exemple?
Je ne suis pas fan, moi.
Ah si, moi oui.
Alors si je vous pose cette question, c'est parce que dimanche, vous le savez, c'est
Halloween.
Et que des monstres malveillants risquent bien de toquer à votre porte.
Oui, c'est peur.
Oui, petit frisson matinal. Ce qui fait réellement peur, en revanche, c'est un monstre que beaucoup d'entre nous avons sur nos smartphones ou en onglet sur notre navigateur Internet. Un monstre pétri de bonnes intentions, nous connecter, nous permettre d'échanger, de garder le lien, mais qui est devenu, au fil du temps, totalement incontrôlable. J'ai nommé Facebook. Le journal Le Monde a eu accès à des milliers de documents internes du réseau social récupérés par une ancienne salariée du géant américain. Et à leur lecture, un constat s'impose. L'algorithme de Facebook échappe au contrôle de ses créateurs. C'est le titre de l'article. Alors avant d'aller plus loin, il faut rappeler le rôle de ce code informatique. Il classe, il sélectionne les messages qui apparaissent dans votre fil d'actualité. Ces critères sont multiples. Certains sont simples. Le nombre de personnes abonnées à une page, par exemple, ou de nombreux likes et commentaires sur une photo. D'autres, en revanche, sont beaucoup plus complexes et honnêtement, impossibles à résumer, voire à comprendre. Et ce, même pour les ingénieurs de Facebook qui font pourtant partie des meilleurs au monde. Ils avouent dans ces documents leur incompréhension face à ce code informatique devenu tellement complexe que son comportement en devient déroutant. En Inde, par exemple, des vidéos pornographiques soft se sont subitement retrouvées mises en avant sans que personne ne soit capable de l'expliquer. Aux États-Unis, les analystes du réseau social s'arrachent les cheveux pour comprendre pourquoi certains groupes politiques continuent d'être recommandés aux utilisateurs alors qu'ils ne devraient plus l'être. Les équipes de Facebook n'ont pourtant pas ménagé leurs efforts pour essayer de reprendre le contrôle de la bête. En 2018, le réseau social a modifié en profondeur son algorithme pour qu'il privilégie davantage les publications dites positives, celles de vos proches, leurs photos de famille ou de vacances, et ce, au détriment des contenus politiques ou des articles de presse. Or, cette modification a eu l'effet totalement inverse. Il a favorisé les contenus clivants, notamment à travers les contenus partagés et repartagés par vos amis, quand bien même ceux-ci proviennent de pages douteuses, voire haineuses. On a vu le résultat lors de la dernière campagne présidentielle américaine où pendant la pandémie, Facebook raffole des fake news et autres théories complotistes. Les ingénieurs du réseau social avouent être à ce point désarmés face au comportement de leur création qu'ils en viennent à développer des stratégies pour contourner le problème. En clair, ne plus modifier l'algorithme, on a vu ce que ça a donné, mais l'interface de Facebook. Certains documents révèlent que les ingénieurs poussent en interne pour ajouter ce qu'ils appellent des éléments de friction, des garde-fous, comme par exemple forcer les utilisateurs à devoir cliquer deux fois et non plus une seule pour partager certains types de contenus. L'algorithme de Facebook, un monstre devenu incontrôlable, c'est-à-dire dans Le Monde.
Et vous l'aviez remarqué peut-être sur vos profils Facebook où vous avez des amis que vous ne voyez pas ou peu, vous consultez quasiment jamais leur profil. Ça remonte toujours au début. L'algorithme, on n'y comprend rien.
Ouais, bah même Facebook n'y comprend rien.
Merci beaucoup. C'est rassurant en tout cas.
Oui, c'est toujours Facebook rassurant, ça va ensemble. Merci beaucoup. Le pressing, c'est terminé. Ça recommencera évidemment demain. On vous retrouve, Martin, dans une quarantaine de minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h20 sur Europe 1, les principaux titres de ce mercredi. C'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
La France, championne de la parité homme-femme dans les conseils d'administration, mais à la traîne dans les comités exécutifs et comités de direction. Alors, 10 ans après la loi Copé-Zimmermann, proposition de loi examinée aujourd'hui au Sénat. Objectif 40% de femmes cadres dirigeantes en 2030. En Belgique, hallucinant coup de filet anti-drogue hier contre un groupe de trafiquants qui produisait jusqu'à une tonne de cocaïne par semaine. 64 personnes arrêtées, 6 laboratoires démantelés grâce à la mobilisation de plus de 1500 policiers. Les Britanniques s'inquiètent sur l'état de santé de leur reine Elisabeth de renom. Sur avis médical, à participer à la COP26 à Glasgow où elle devait assister à la réception des chefs d'État lundi prochain. La reine avait déjà passé une nuit à l'hôpital la semaine dernière. Le directeur de l'Office français de l'immigration à Calais aujourd'hui pour une mission de médiation. Dans la ville, une grève de la faim en soutien aux migrants a été entamée il y a plus de 2 semaines.
Europe 1. 5h21, très bon réveil. À présent, ce sont les initiatives en France. Notre coup de projecteur quotidien sur celles et ceux qui font bouger les lignes.
Bonjour Camille Bardou.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes la chef de projet lacollecte.tech, projet porté par l'association Emmaüs Connect. Et vous lancez ce matin un appel aux entreprises. Que leur demandez-vous ?
Eh bien écoutez, on demande aux 2 millions d'entreprises qui déclarent aujourd'hui avoir des équipements numériques dormants dans leur placard, des smartphones, des ordinateurs, des tablettes, de nous les confier tout simplement.
Des équipements qui n'utilisent plus, c'est bien ça ?
Voilà, tout à fait. L'idée en fait, c'est que nous, on va venir collecter ces équipements et on va les faire reconditionner par des structures de l'insertion au plus proche du donateur. Et ensuite, ça va nous permettre de les vendre à tarif solidaire aux 8 millions de Français qui aujourd'hui sont privés du numérique faute d'équipement.
Vous souhaitez recueillir combien d'appareils ?
Dans le meilleur des mondes, d'ici la fin de l'année, à peu près 50 000 appareils. Le projet La Collecte.tech a été lancé il y a une petite année.
Quand vous dites que ces appareils sont reconditionnés, ça veut dire quoi exactement ?
Ça veut dire qu'on va les collecter, puis ensuite les structures d'insertion qui prennent en charge les appareils vont les auditer. Et puis il va y avoir du coup... deux tas, on va dire. Alors, le premier tas, ça va être les équipements que l'on peut réparer. Et puis, le deuxième tas, ça va être celui des équipements que l'on ne peut malheureusement pas reconditionner, qui ne pourront pas avoir de seconde vie. Par contre, on va les recycler. Évidemment, on espère que la part des équipements que l'on va pouvoir réparer sera bien supérieure à celle des déchets.
Et ces équipements, vous l'avez dit, vous les proposez aux personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir l'équivalent en neuf. Combien coûte un ordinateur reconditionné, par exemple ?
Un ordinateur qui sort de la filière La Collecte.tech coûte entre 60 et 150 euros.
Oui, ce qui est quand même beaucoup moins cher que même l'équivalent d'occasion dans les réseaux spécialisés.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on parle bien de filière solidaire. Hein. C'est parce que l'on va, avec les structures d'insertion qui font vraiment partie du collectif, on va travailler avec elles sur les tarifs de reconditionnement de manière à les tirer au plus bas pour pouvoir permettre à ces personnes de s'équiper. Donc voilà, aujourd'hui, en moyenne, les personnes que l'on reçoit dans les points d'accueil Emmaüs Connect gagnent à peu près 650 euros par mois. Vous vous doutez bien que du coup, c'est quasiment le prix d'un ordinateur en fait.
Alors justement, à travers cette opération, vous luttez, vous l'avez dit, contre ce qu'on appelle la précarité numérique. Elle s'est aggravée avec la crise ?
Elle s'est aggravée certainement, et puis aussi elle est devenue visible avec la crise, puisque quand on est enfermé chez soi et que l'on n'a pas d'équipement, on ne peut pas parler à sa famille, on ne peut pas suivre ses cours, on ne peut pas postuler à des offres d'emploi, et donc ça a été vraiment la double peine pour les personnes qui étaient déjà en galère vis-à-vis du numérique, mais qui arrivaient à s'en sortir en empruntant des équipements, en se connectant via des lieux où il y avait un accès pour tous. Donc je pense qu'on a aussi vu ces personnes un petit peu, ces invisibles jusqu'à maintenant. Et puis bien sûr, ça s'est aggravé puisque, on le sait, il y a une crise économique qui arrive et qui petit à petit, du coup, éloigne encore plus les personnes de ces équipements numériques.
Qui sont ces invisibles, comme vous dites ? Quel est le profil des bénéficiaires ?
Eh bien, il n'est pas forcément celui que l'on attend quand on parle de numérique. On a tendance à imaginer que les personnes en galère numérique sont plutôt les seniors. Ce n'est pas du tout le cas. On reçoit dans nos points d'accueil beaucoup de personnes entre 18 et 30 ans et puis des personnes dans la tranche d'âge un peu supérieure aussi. Donc les profils sont très variés et c'est ça qui est d'autant plus inquiétant et qui fait qu'on lance cet appel parce qu'aujourd'hui, on se retrouve face à des étudiants, par exemple, qui rendent leurs devoirs ou qui suivent leurs cours avec leur smartphone et ça, c'est intolérable.
Comment ça se passe si j'ai besoin d'un ordinateur ou d'un smartphone? Je me manifeste où?
Vous manifestez auprès d'une structure de l'action sociale. Ça peut être un CCAS ou autre. Quand on est étudiant, ça peut être le CROUS ou le service vie étudiante. Et puis, vous demandez à être orienté. Enfin, normalement, le professionnel va de lui-même vous orienter vers un point d'accueil Emmaüs Connect ou via une structure que l'on appelle un relais numérique, qui est grosso modo une structure de l'action sociale que l'on a formée à la détection et à l'accompagnement des personnes en situation de précarité numérique.
Et vous avez permis à combien de personnes de s'équiper jusqu'à présent ?
Alors jusqu'à présent, plusieurs milliers, à peu près 5000 équipements sont sortis de la collecte Pointec et ont eu une deuxième vie auprès de personnes en situation de précarité numérique. On a encore pas mal d'équipements qui sont en cours de reconditionnement chez nos reconditionneurs. Je me permets de les citer parce qu'ils sont vraiment la pierre angulaire du projet. Les ateliers Sans Frontières, les ateliers du Bocage, Trira, Défab Nord et autres travaillent avec nous tous les jours pour mener à bien ce projet. C'est un projet qui est lancé, qui est en cours. Et on espère avoir encore beaucoup d'équipements pour pouvoir équiper ces 8 millions de Français qui aujourd'hui n'ont pas accès à de l'équipement numérique.
C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Camille Bardou de nous avoir présenté cette belle initiative solidaire et écologique, la collecte.tech, initiée par l'association Emmaüs Connect. Très bonne journée à vous.
Merci, bonne journée.
Europe Matin. Blin Roche et Julien Pierce.
Excellent mercredi matin sur Europe 1 et comme chaque mercredi, le cinéma s'invite dans ce studio avec Laurie Choleva. Elle a beaucoup aimé le dernier film de Guillaume Canet. Rendez-vous dans un quart d'heure. Mais avant cela, Blin, on va essayer de déconstruire les idées reçues à propos de notre alimentation.
Ces fake news dans nos assiettes qui, pour certaines, ont toujours existé mais qui ont explosé depuis notamment l'avènement des réseaux sociaux. Derrière les claviers, il semblerait qu'il y ait autant de nutritionnistes que d'internautes. Ça concerne bien sûr le sucre, le gras, les nouvelles modes des aliments crus. Nous serons avec Mathilde Touvier, directrice de recherche à l'INSERM. L'INSERM qui publie le livre Fake News, Santé, afin d'apporter des réponses claires et scientifiques à toutes ces questions.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS Agri et CNAPS.
La météo avec Anissa Haddadi et force est de constater qu'il y a encore des brouillards ce matin, mais la journée sera belle.
Oui. Très belle même. Alors les brouillards, bon bah c'est pour tout le monde. Hein. Alors là, vraiment pas de jaloux, tout le monde est concerné, sauf la Provence et la Corse. Tiens, on a Étienne qui nous écrit et qui nous signale beaucoup de brouillards sur la route du côté de Belleville en Beaujolais. Alors ça, c'est dans le Val-de-Saône et c'est vrai que là, les brouillards seront tenaces tout au long de la journée. Le ciel va très vite se lever, les brouillards vont se dissiper, le soleil va s'imposer sur les trois quarts du pays, sauf au nord de la Seine où là, on a un petit peu plus de nuages, mais globalement c'est une très belle journée. On a du vent sur les côtes de la Manche. Les températures 1 à 14 degrés ce matin. Il fait un petit peu plus frais et cet après-midi, c'est agréable et doux avec 14 à 22.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30, votre journal.
Europe 1.
On annonce une mort du médico-social. Dans les mois qui arrivent, si on n'arrive pas à trouver un consensus, nous allons être obligés de fermer des structures. Nous sommes en sursis.
L'appel à l'aide des professionnels de l'aide médico-sociale, la pénurie de soignants est de plus en plus criante, comme ici dans la région de Marseille. Le secteur manque de bras et ne peut plus assurer l'accueil des personnes en difficulté. Qui sont les acheteurs de voitures neuves? Les dernières études le prouvent, l'âge moyen ne cesse de s'allonger, 57 ans pour les hommes, 53 pour les femmes. Le déplacement d'Éric Zemmour à Biarritz, le presque candidat a été sur la côte basque pour faire la promotion de son livre. Le polémiste en a profité pour tacler Marine Le Pen, une femme de gauche en décalage avec son électorat. Selon lui.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
À 5h30, le journal vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. C'est un appel au secours, celui des représentants du secteur de l'aide sociale. Faute de personnel, certains centres ne peuvent plus accueillir les patients. On parle ici des enfants handicapés ou en danger, des personnes âgées, des sans-abri. Si les soignants se font rares, c'est parce que ce métier réputé difficile et pénible est très mal rémunéré. Le Ségur de la Santé n'a rien changé à l'affaire. Reportage de notre correspondant à Marseille, Stéphane Burgat.
Atteint de handicap mental, le petit frère de Fabien Micaeli est pris en charge dans une maison d'accueil spécialisée. Mais faute de personnel, son suivi pose aujourd'hui problème.
L'hygiène des fois, parce que les personnes n'ont pas le temps. Mal propre, sans aucune activité pendant une longue période de temps. Et on peut arriver à des situations qui mettent en péril le bien-être des enfants.
Un long déclin également observé par Hugues Dupoivre. Son fils est atteint de handicap assez lourd et la fragilité de ses structures médico-sociales l'inquiète pour l'avenir.
La question pour tous les parents, c'est quelle sera l'accompagnement de mon proche après mon décès. Parce que si le médico-social s'écroule, quand je serai décédé, pour moi c'est une vraie angoisse. C'est une angoisse qui est insupportable et qui n'est que grandissante.
Et la situation déjà critique pourrait encore se détériorer selon Jean-Yves Lefranc, directeur général de l'association UNAPEI Alpes-Provence.
Nous sommes en sursis. On annonce une mort du médico-social. Dans les mois qui arrivent, si on n'arrive pas à trouver un consensus, nous allons être obligés de fermer des structures.
Ces structures médico-sociales associatives demandent tout simplement que les dispositions salariales du Ségur de la Santé soient appliquées équitablement à l'ensemble de leur personnel. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
L'Assemblée poursuit l'examen du projet de loi de finances pour 2022. Elle vient d'adopter en première lecture le budget de la sécurité sociale doté de 500 milliards d'euros avec plusieurs mesures pour le grand âge.
Autre secteur en pleine déprime, celui de l'automobile. Les ventes de voitures neuves plongent de 20%. Et si les acheteurs se font rares, ils se font aussi de plus en plus âgés.
C'est le résultat d'une étude des professionnels du secteur. On le sait, les constructeurs traversent une crise liée en partie à un problème d'approvisionnement. On manque de semi-conducteurs par exemple, ce qui oblige Renault à revoir à la baisse sa production, 500 000 véhicules de moins cette année. Mais il n'y a pas que cela, l'acheteur se fait rare et il est de plus en plus âgé, Aurélien Fleureau.
Eh bien d'abord, ils sont de moins en moins nombreux. Selon le spécialiste de la donnée 3A Data, en 2021, sur 10 ventes de voitures, une seule a été effectuée sur le marché du neuf. Une tendance qui s'accentue ces derniers mois, tout comme l'augmentation de l'âge moyen de l'acheteur. 57 ans pour un homme, 53 pour une femme. Plusieurs explications selon Flavien Neuville, économiste et directeur de l'Observatoire 7LM.
Ça correspond à une période bien précise de la vie des Français qui deviennent en moyenne propriétaires à l'âge d'environ 30-35 ans. Et en général, quand on achète un bien immobilier, on part pour 20 ans de crédit. Donc on va dire qu'une fois qu'on a fini de payer son crédit, on achète une voiture neuve. Et donc c'est un âge qui ne cesse d'augmenter au fil du temps. Et ce sont des gens qui effectivement ont plutôt des revenus corrects, un petit peu au-dessus de la moyenne, parce qu'encore une fois, le prix de vente des voitures neuves est très élevé aujourd'hui.
Deux autres évolutions nettes dans le profil de l'acheteur, de moins en moins de particuliers au profit des professionnels. Et puis le mode de financement, le crédit classique était préféré par 75% des Français en 2016. Et selon 3A Data, la location longue durée et surtout la location avec option d'achat gagne du terrain pour représenter entre 40 et 45% du marché en 2020 et 2021.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
La culture continue de souffrir également. Le responsable est clairement identifié. Il a même un nom, c'est le pass sanitaire.
Depuis son instauration le 21 juillet, il a provoqué une véritable hémorragie de spectateurs. C'est la conclusion de l'enquête Harris Interactive qui sera remise tout à l'heure à la ministre Roselyne Bachelot. Près d'un Français sur deux a cessé de fréquenter les lieux culturels. Cinéma, théâtre, musée, salle de spectacle, tous les secteurs sont touchés. Certains plus que d'autres, c'est le cas notamment des festivals. Aux États-Unis, la vaccination des enfants de 5 à 11 ans fait son chemin. Ils sont 28 millions outre-Atlantique. Un comité d'experts vient de se prononcer en faveur de leur vaccination. L'Agence américaine des médicaments aura le dernier mot, mais il est rare qu'elle ne suive pas l'avis du comité.
Il n'est pas encore candidat, mais Éric Zemmour continue de faire l'actualité politique à tort ou à raison.
Le polémiste est parti sur les routes de France pour faire la promotion de son livre. Ses séances de dédicace se transforment le plus souvent en tribune, mais sa venue provoque aussi les réactions de ses opposants. 300 personnes ont protesté contre sa présence hier à Biarritz. Le maire lui avait d'ailleurs interdit l'accès à une salle du centre-ville, ce qui a obligé Éric Zemmour à se rabattre en périphérie. Le pas encore candidat en a profité pour étriller l'une de ses cibles favorites, Marine Le Pen.
J'avais été le premier à le dire et à le diagnostiquer. C'est une femme de gauche. Tous ses réflexes sont de gauche. Elle est en décalage avec son électorat. Elle dit que l'islam est différent de l'islamisme. 67% des Français pensent le contraire. Elle dit que le grand remplacement n'existe pas. 67% des Français pensent le contraire. Elle pense comme le tiers le plus à gauche du pays. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est son problème à elle, ce n'est pas le mien. Maintenant, elle essaye désespérément de m'accrocher comme la gauche. Elle parle comme la gauche, elle parle comme M. Montebourg, elle parle comme Mme Schiappa, elle parle comme M. Mélenchon. Voilà, elle essaye de m'agripper sur ma prétendue misogynie. Stupide réflexion, stupide analyse, stupide angle d'attaque. Ses électeurs ne seront pas dupes.
Éric Zemmour au micro de Stéphane Place. Le Premier ministre hongrois, lui, s'est bien gardé de donner sa préférence. Après Éric Zemmour, il y a un mois, il recevait hier la candidate du Rassemblement national en déplacement à Budapest. Viktor Orban et Marine Le Pen ont tenu une conférence de presse commune à l'issue de leur entretien. Ces deux figures du souverainisme ont dénoncé la brutalité idéologique de l'Union européenne.
On en vient à cette découverte très rare. Le fossile d'un paresseux géant vient d'être retrouvé en Guyane.
Et selon le paléontologue qui a dirigé l'expédition, cela ouvre une brèche vers un passé méconnu. Ce paresseux géant a disparu il y a 12 000 ans. Son squelette fossilisé a été déterré hier et c'est la première fois qu'on en découvre un en France. Attention, hein, rien à voir avec le paresseux que l'on connaît. Ce spécimen est très imposant. Thibaut Hu.
Debout sur ses pattes arrière, ce paresseux géant mesure 4 mètres, pèse 4 tonnes. Le poids d'un éléphant, l'apparence d'un ours. Lorsque le paléontologue Pierre-Olivier Antoine l'a déterré, il n'en croyait pas ses yeux.
C'est une découverte vraiment fantastique. C'est un moment magique de pouvoir avoir enfin ces restes d'une mégafaune, alors que ça fait des années qu'on cherche et que près de 2 siècles se sont écoulés sans la moindre découverte de ce genre-là sur le plateau des Guyanes.
Cette espèce d'Amérique du Sud a disparu il y a 12 000 ans, bien différente du paresseux que l'on connaît aujourd'hui.
Très probablement, c'était une proie de choix pour les humains. Elle faisait partie du menu des premiers Amérindiens. Elle était manifestement terrestre. Pour des raisons bien évidentes de résistance des arbres.
Si l'acidité du sol guyanais rend difficile la conservation des ossements, cette découverte est l'espoir que d'autres fossiles soient toujours enfouis.
Voilà, Thibaut Hu pour ce paresseux géant, 4 tonnes quand même.
Oui, la c'est taille d'un éléphant. Assez conséquent. C'était le journal.
C'est sur un arbre, l'arbre intérieur est costaud quand même, non ?
Ouais, baobab.
Ah oui.
Voilà, je ne vois que cette solution. C'était le journal de Christophe Lamarre. Merci beaucoup, Christophe. On passe aux courses avec Thierry Léger et les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien. C'est sur l'hippodrome d'Enghien que va se courir ce Quintet. Une course aux trois attelés qui réunira 16 chevaux âgés de 6 à 9 ans répartis sur deux poteaux de départ, 2875 et 2900 mètres. Priorité aux plus jeunes, avec deux des trois trotteurs âgés de 6 ans au départ de ce Quintet, les numéros 4, Farinelli Paulois et 12, Fleuron d'Acadie, préparés avec soin en vue de cet objectif et qui ont déjà bien réussi sur cette piste d'Enghien. On leur opposera Enzo Dazif, le numéro 9, idéalement engagé à la limite du recul des 25 mètres et qui dépend de l'entraînement de Charles Dreux, dont tous les pensionnaires sont actuellement en regain de forme, avec Echiano, le numéro 3, rarement déféré des 4 pieds, une configuration où il est toujours très performant. Enfin, les numéros 2, Duc d'Idée, 13, Eusebio d'Eripré, 1, Diwido Cagne et 8, Expert Delta, peuvent, comme beaucoup d'autres, s'immiscer à l'arrivée de ce Quintet, bien plus ouvert qu'il n'y paraît. Mon pronostic, 4, 12, 9, 3, 2, 13, As et 8.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain. Il est 5h39, des chercheurs de l'INSERM qui se mobilisent pour lutter contre les fake news à propos de notre santé et en particulier de notre alimentation. On en parle dans un instant.
Blin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Très bon début de matinée à tous avec Europe 1. Il est 5h40 et on s'intéresse à présent à un livre plein de bon sens. Il a été écrit par des chercheurs de l'INSERM pour lutter contre les nombreuses fausses informations qui circulent à propos de notre santé. Depuis toujours d'ailleurs, pour certaines, des fake news relayées par des médias et par les réseaux sociaux. Et notre assiette notamment en est remplie. Nous sommes en Blin avec Mathilde Touvier, directrice de recherche à l'INSERM, co-autrice du livre Fake News Santé.
Bonjour Mathilde Touvier.
Bonjour.
La pandémie a prouvé qu'il y avait autant de virologues et d'épidémiologistes que d'internautes. Les fausses informations en matière de santé ont toujours existé. Mais que constatez-vous ces dernières années ? Que le phénomène s'est amplifié ?
Oui, très certainement. Et après, c'est vrai que ce n'est pas un phénomène nouveau en ce qui concerne la nutrition. Hein. On a affaire à une avalanche d'informations, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans la presse aussi, donc avec des informations qui sont très loin d'être scientifiquement validées parfois. Donc prudence. Et donc ce livre a vraiment pour objectif de démêler le vrai du faux dans ce domaine.
Ouais, ce livre de l'INSERM, Fake News Santé, publié aux éditions Les Cherches Midi, consacre donc tout un chapitre sur les fausses informations qui débordent de nos assiettes. Alors d'abord, les modes alimentaires, notamment les régimes sans gluten, les rayons débordent de produits sans gluten. C'est la tendance du moment ou faut-il vraiment s'en passer ? J'ai envie de reprendre même la question que vous posez dans le livre. Est-ce qu'on affronte une épidémie d'intolérance au gluten ?
Non. Alors, effectivement, s'en passer, c'est très certainement une bonne idée, voire absolument indispensable pour les personnes qui ont un réel problème, donc les personnes atteintes de maladies cœliaques ou encore les personnes qui sont allergiques aux protéines de blé, hein, pas le gluten directement, mais finalement le protéine de blé plus largement, ou encore donc, des personnes qui peuvent être hypersensibles au gluten. Alors, les deux premières catégories, maladies cœliaques allergiques aux protéines de blé, c'est vraiment quelques pourcents, on va dire maximum 2-3% de la population française, donc c'est extrêmement faible. Les hypersensibles au gluten, c'est plus compliqué puisqu'on ne sait pas clairement les diagnostiquer, mais au maximum, ce serait 15% de la population. Donc pour tout le reste, en fait, finalement, non, il n'y a pas besoin du tout d'éliminer le gluten, et voire même, on se priverait de sources intéressantes de fibres, notamment avec les produits céréaliers complets. Donc c'est certainement pas une bonne idée pour la population générale, on va dire.
Les magazines débordent de conseils alimentaires, de conseils détox. Hein. Alors, c'est peut-être une excuse pour se permettre tous les excès et de se dire qu'ensuite on va pouvoir décrasser notre organisme. Alors, existe-t-il des aliments qui ont ce pouvoir ?
Non, et je pense que vous avez vraiment raison. C'est-à-dire que c'est bien pratique, hein, de se dire qu'il y aurait des aliments miracles qu'on pourrait consommer avec, à côté de ça, bah, une alimentation totalement déséquilibrée, un mode de vie vraiment pas voilà, équilibré non plus. Donc non, ça n'existe pas, voire même ça peut être dangereux. C'est-à-dire qu'il y a certaines substances, certains compléments alimentaires vendus comme ça, détox, avec du millepertuis par exemple, qui ont certes des propriétés potentiellement détoxifiantes, mais qui vont aussi, par exemple, interagir avec les médicaments, annuler, voire diminuer fortement l'effet de certains médicaments. Donc, ça peut être dangereux. Et de même, ça peut être dangereux aussi de consommer toujours le même aliment avec des cures un petit peu, voilà, miracle.
Et que pensez-vous des phases de période de jeûne ? Toujours dans cette idée de se détoxifier l'organisme, les stages sur plusieurs jours, ou le fait de jeûner 24 heures toutes les semaines, est-ce que c'est vraiment efficace ?
Alors non, dans l'état actuel des connaissances, il n'y a vraiment pas de preuves scientifiques qui montrent un bénéfice, quel qu'il soit, hein, que ce soit sur cancer, la longévité, ou etc., du jeûne. Il y a un engouement là-dessus, et notamment dans certaines catégories de population, par exemple chez des patients atteints de cancer, puisqu'il y a des études qui ont montré chez l'animal des résultats prometteurs, mais il n'y a absolument aucune preuve chez l'humain, avec voire même des risques de dénutrition, des risques d'affaiblissement. Donc là, vraiment prudence, et surtout pas se lancer c'est là-dedans sans suivi médical, sans avis médical.
Passons en revue maintenant quelques idées reçues, qui sont nombreuses d'ailleurs, hein, bien ancrées dans l'imaginaire collectif. Doit-on obligatoirement arrêter le sucre et le gras pour rester en bonne santé ?
Non, pas formulé comme ça. arrêter le sucre, finalement, ça voudrait dire aussi arrêter tout ce qui est fruits, légumes, laitages. Donc, puisque du sucre, on en trouve évidemment dans les fruits, on en trouve dans les produits laitiers. Donc, non, arrêter le sucre de manière globale, c'est certainement pas possible pour notre fonctionnement. Par contre, limiter les sucres ajoutés, les boissons sucrées, etc., oui, ça, c'est certainement une bonne idée. Pour le gras, c'est la même chose. C'est-à-dire que notre organisme a besoin pour son fonctionnement, pour la matière première même de nos cellules, des membranes de nos cellules, etc., on a besoin de gras. Après, tous les gras ne se valent pas. Il y a des gras, comme par exemple les acides gras saturés, qui sont plutôt à limiter. Il y a des gras plutôt favorables à la santé cardiovasculaire, au contraire, qui sont notamment les acides gras polyinsaturés. Donc là, il faut bien choisir nos matières grasses et donc privilégier, par exemple, les huiles végétales, huile de noix, de colza ou d'olive, plutôt que le beurre quand on fait la cuisine ou bien voilà, pour les tartines.
Concernant le chocolat, alors beaucoup vont déculpabiliser. On a toujours dit qu'il fallait privilégier le chocolat noir réputé meilleur pour la santé. Eh bien, c'est pas si vrai, en fait.
C'est à moitié vrai. le chocolat, finalement, qu'il soit noir, au lait ou blanc, bon, est à limiter. C'est-à-dire qu'à consommer de temps en temps avec modération, il n'y a aucun problème, hein, comme tout en nutrition. Par contre, en abuser, ce n'est pas une bonne idée, même le chocolat noir, puisque notamment, il est très riche en calories. Hein, c'est environ 560 kilocalories au 100 grammes. Il doit être finalement plus riche en beurre de cacao, donc en matière grasse, que le chocolat au lait ou le chocolat blanc, qui eux sont plus riches en sucre, hein, finalement. Mais donc, du point de vue calories, c'est à peu près pareil. Alors après, le chocolat noir, il y aura souvent moins d'additifs, donc c'est peut-être un petit peu mieux potentiellement pour la santé, mais ça reste de toute façon à consommer avec modération.
Merci beaucoup Mathilde Touvier, vous êtes directrice de recherche à l'INSERM, co-autrice du livre Fake News Santé, publié aux éditions Le Cherche Midi. Alors on a parlé de l'alimentaire, mais il y a beaucoup d'autres fake news dans bien d'autres domaines de la santé. Merci.
Au revoir.
Ce qui se consomme sans modération, en revanche, c'est la culture à 5h46 et même le cinéma avec Laurie Choleva.
Bonjour Laurie.
Bonjour Ambline, bonjour Julien, bonjour à vous.
Alors Laurie, cette semaine, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir.
Et c'est vrai, c'est une semaine très riche en sorties cinéma. Il y a le nouveau film de Wes Anderson, The French Dispatch, La Fracture de Catherine Corsini, drame social qui était présenté au dernier Festival de Cannes, ou encore le très drôle Barbac, signé Fabrice Eboué avec Marina Foïs. Mais moi, c'est vrai que j'avais envie de soutenir Lui. C'est le nouveau film réalisé par Guillaume Canet, l'histoire d'un compositeur en mal d'inspiration qui part seul dans une maison à Belle-Île pour se retrouver, surtout pour faire le point sur sa vie. Alors, c'est vrai qu'entre sa femme, jouée par Virginie Efira, et sa maîtresse, incarnée par Laetitia Casta, il ne sait plus où donner de la tête et on le comprend.
C'est super beau. Ici, c'est très calme.
Tu peux m'expliquer pourquoi tu penses à moi quand tu baisses ta maîtresse?
Elle est bien ta femme. T'es vraiment un con.
Vous m'aviez dit que le piano serait accordé et c'est pas le cas.
Ah bon?
Franchement, qu'est-ce qui te fait penser que je couche avec ton pote?
Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est concret.
Ça fait tellement de la peine, votre histoire.
Je suis venu ici pour m'isoler.
Excuse-moi, mon amour, mais l'artiste en panne d'inspiration qui part s'isoler, c'est un cliché.
Alors c'est vraiment son film le plus personnel. Guillaume Canet se livre comme jamais. Il nous fait part de ses peurs, de ses souffrances à travers ce personnage qui va se retrouver donc seul dans la maison, à converser avec son double imaginaire, à observer sa femme, sa maîtresse, son meilleur ami, ses parents, parler de lui sous son nez, évidemment à travers toujours des personnages imaginaires. Et si ce procédé vous rappelle Bertrand Blier, eh bien oui, c'est exactement la référence de Guillaume qui livre avec lui un très bel objet de cinéma. Écoutez-le justement nous parler de ce projet.
C'est mon film le plus personnel, c'est pas un film autobiographique, je le précise, c'est vraiment une fiction, mais il y a beaucoup de moi dedans, et c'est comme ça que les gens peuvent s'identifier, que ça devient, je l'espère, universel. Mais quand je vois les réactions des gens en salle partout, les gens rient, sont émus et viennent me voir à la fin, et de tout âge. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés pendant ce confinement aussi confrontés à cette dualité et à cette remise en question, et c'est là que je vois que le film finalement n'est pas si personnel que ça.
Alors de Guillaume Canet pour le prix d'un, dans ce film OVNI, drôle, sensible et introspectif.
Et puis la sortie incontournable du jour, Laurie.
Le film Last Night in Soho, c'est un film très attendu par les cinéphiles d'Edgar Wright qui avait fait sensation lors de sa projection à la dernière Mostra de Venise. Et c'est normal car le film est vraiment renversant et la mise en scène est brillante. C'est l'histoire d'Elodie qui s'installe à Londres pour ses études et dans ses rêves, elle se retrouve plongée dans les années 60. Elle rencontre alors l'une des stars montantes de l'époque, mais tout n'est pas ce qu'il semble être.
La nuit dernière, j'ai vu quelque chose. Dans mes rêves, il y avait une fille.
Et vous êtes ?
Sandy. J'ai une sorte de don. Je vois des gens, des endroits, des choses que personne ne voit. Ce ne sont pas que des rêves. Je veux signaler un meurtre. L'homme qui l'a tué court toujours. Il faut que je l'arrête.
C'est vraiment un thriller fantastique, une histoire qui oscille entre illusion et réalité et qui est menée par l'étoile montante d'Hollywood, Anna Taylor-Joy, qu'on a adorée dans la série Le Jeu de la Dame ou encore dans Split, qui est absolument génial. Donc avec Halloween qui approche, c'est le film parfait à aller voir en salle. Et attention, c'est interdit aux moins de 12 ans.
Le film Last Night in Soho et puis Lui, de et avec Guillaume Canet en salle aujourd'hui. Merci Laurie Choléva.
Europe Matin,
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h50 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. C'est le journal permanent avec Alban Leprince.
Trop d'hommes, pas assez de femmes à la tête d'entreprise. Pour la parité, hommes-femmes, le Sénat examine aujourd'hui une proposition de loi qui vise 40% de femmes cadres dirigeantes en 2030. On en est à 27% aujourd'hui. Plus de 3000 témoignages recueillis par la commission de lutte contre l'inceste qui rend ses premières conclusions et préconisations aujourd'hui. Objectif qu'elles soient intégrées à la loi. Parmi elles, la suspension de l'autorité parentale et du droit d'hébergement d'un parent poursuivi pour violence sexuelle. Les plus de 80 ans moins vaccinés contre le Covid et plus fragiles, alors le gouvernement lance un numéro vert pour les vacciner à domicile, le 0800 730 957, joignable de 6h à 22h. Et puis un nouveau match pour oublier la soirée du 22 août dernier, Nice-OM ce soir pour rejouer la rencontre qui avait tourné au fiasco. Entre envahissement de terrain et jet de projectiles, les deux équipes se retrouvent à 3 à 21h et à huis clos.
Europe Matin.
L'actualité de ce mercredi s'écrit aussi dans vos quotidiens régionaux et on sélectionne chaque matin un article de la presse locale. Et c'est celui ou celle qui l'a écrit qui nous le raconte.
Bonjour Pierre-Marie Herriot.
Bonjour Julien Pierre.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le rédacteur en chef de Presse Océan où l'on peut lire ce matin un dossier sur la saturation des services d'urgence de Loire-Atlantique et notamment au CHU de Nantes.
Oui, au CHU de Nantes, tout comme à l'hôpital de Saint-Nazaire aussi, les urgences sont sous tension. La fréquentation a augmenté considérablement. Le nombre de passages est passé à 260 par jour, alors que d'habitude il est de 205 malades accueillis au service des urgences quotidiennement.
Comment ça s'explique ?
Bien, tout simplement par un effet ciseau. En 2019 et 2020, avec la Covid, peu de gens se sont précipités aux urgences. C'est-à-dire que aujourd'hui, on retrouve des vieux réflexes. Pour le moindre bobo, si le médecin n'est pas disponible, on fonce aux urgences. Il y a donc une augmentation de la fréquentation. Et puis, de l'autre côté, eh bien, il y a moins de personnel et il y a moins de lits disponibles. Alors évidemment, tout ça, ça allonge les délais. Et à l'arrivée, ça met les urgences sous tension.
On comprend bien que cette saturation des services n'est pas liée à un afflux de patients Covid. En revanche, il y a une inquiétude concernant les bronchiolites et autres virus touchant les bébés durant l'hiver.
Oui, tout à fait. Mais c'est aussi une autre conséquence de la crise sanitaire que l'on a connue. Les enfants, les nouveau-nés sont beaucoup plus faciles à toucher par toutes sortes de virus, notamment par les bronchiolites. Et nous sommes aujourd'hui aux urgences pédiatriques du CHU de Nantes, par exemple. Deux mois avant le pic officiel, on est déjà au maximum.
Ces bébés n'ont pas été exposés à ces virus les hivers précédents et désormais, ils y sont beaucoup plus sensibles.
Et bien, c'est ce que pensent les soignants, en effet. Les deux années précédentes, il n'y a pas eu d'épidémie de bronchiolite ou de grippe. Et aujourd'hui, on retrouve, j'allais dire, un fonctionnement normal. Hein. Les parents ressortent, revivent et communiquent ces bactéries et les virus qui vont avec à leurs nouveau-nés, à leurs enfants. Alors évidemment, ça fait un afflux. Dès qu'un enfant tousse, s'étouffe, et évidemment, on fonce. Hein, en tant que parent, on fonce, on le prend et on fonce à l'hôpital. Et les urgences pédiatriques, aujourd'hui, elles peinent à recevoir tout le monde.
Que demandent les professionnels de santé que vous avez interrogés sur cette saturation ?
Ils demandent surtout aux gens, aux citoyens, hein, aux personnes qui ont un petit bobo, ils leur demandent surtout de ne pas se précipiter immédiatement aux urgences. Si vous vous êtes fait une petite entaille au doigt, ça peut attendre le lendemain d'aller voir éventuellement son médecin ou on peut se soigner soi-même. Enfin voilà, vraiment tous les petits maux du quotidien, évitez de foncer aux urgences.
D'avoir une attitude citoyenne, pour résumer, des services d'urgence saturés, y compris en pédiatrie, alors que l'hiver n'a pas encore commencé. C'est le dossier à lire ce matin dans Presse Océan. Merci beaucoup Pierre-Marie Herriot.
Merci Julien.
Et à très bientôt sur Europe 1.
À très bientôt.
Il est 6h. Qui pour s'occuper de vos enfants pendant les vacances de la Toussaint ? Les centres de loisirs peinent à recruter des animateurs. Le gouvernement sort donc son chéquier, 200 euros pour financer la formation des jeunes candidats. Plus de 50 000 inscrits sur la plateforme Moi sans tabac. L'opération démarre la semaine prochaine. Un accompagnement gratuit qui permet de doubler les chances de réussite. Un adulte sur quatre fume quotidiennement en France. Et puis qui sera le prochain lauréat du prix Goncourt ? Le jury a dévoilé hier le nom des quatre derniers candidats. Trois hommes et une femme, dont Christine Nango, favorite de cette rentrée littéraire.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Romane Oquet. Bonjour Romane.
Bonjour à tous. Ballot, prisonnier ou atelier pâte à sel, vos enfants passent peut-être leurs vacances de la Toussaint dans un centre de loisirs, à condition qu'il y ait des animateurs. Un secteur où 5000 postes sont à pourvoir, 10% des effectifs. Une tension telle que certaines structures ont réduit leur capacité d'accueil pour la Toussaint, avec des exemples sur tout le territoire, de l'Indre-et-Loire aux Yvelines jusqu'au Morbihan.
Pour encourager les candidatures, le gouvernement vient de signer un nouveau chèque, 6 mois de l'élection présidentielle. Maud Descamps, il doit servir à financer la formation de ses futurs animateurs ?
Oui, une aide de 200 euros qui sera versée en 2022. 20 000 jeunes en seront bénéficiaires. 200 euros pour aider à financer le BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, qui coûte au total entre 800 et 1 000 euros. Un coup de pouce trop faible, estiment les acteurs du secteur, comme Jean-Daniel Lemercier de l'association Famille Rurale d'Ille-et-Vilaine. Dans son département, de nombreux centres ont dû refuser des enfants pour la Toussaint, faute d'encadrants.
On a été obligé de réduire d'environ 10-12% nos possibilités d'accueil et le nombre de places offertes dans les accueils de loisirs. Dans la grande majorité, il y a une compréhension des familles, mais c'est vrai que dans certaines situations, on a eu le cas encore la semaine dernière, on ne pouvait pas accueillir l'enfant et c'est même l'employeur de cette maman qui nous a appelé pour essayer de trouver une solution.
Cette pénurie de candidats s'explique aussi par des salaires peu attractifs, entre 38 et 85 euros par jour pour 10 heures de travail.
Merci Maude Descamps du service économie d'Europe 1.
Déjà plus de 50 000 inscrits à 5 jours de l'opération Mois sans tabac, lancée le 1er novembre par Santé publique France, au programme des groupes de coaching et des consultations avec des tabacologues pour éteindre la dernière cigarette.
Un défi que 15 à 25 % des Français tentent chaque année à travers ce dispositif, un accompagnement qui permet de doubler les chances de réussite, Afsané Saboui.
Adultes sur 4. C'est la proportion de fumeurs quotidiens en France, avec une consommation moyenne de 13 cigarettes par jour. Entre 2014 et 2019, le tabagisme était plutôt en recul en France, mais depuis, les chiffres ont tendance à stagner. Le profil des fumeurs, lui, n'a pas trop changé. Les hommes fument toujours plus que les femmes, les catégories sociales défavorisées plus que les catégories aisées, et la cigarette électronique est vraiment devenue le substitut au tabac le plus utilisé. Mais pas toujours à bon escient, comme l'explique Viet Nguyen Tan, responsable de l'unité addiction chez Santé publique France.
À peu près la moitié des vapoteurs continuent à fumer, ce sont des vapofumeurs finalement. C'est vraiment un point important et souvent méconnu du fumeur. Mais réduire le nombre de cigarettes, ça ne suffit pas à se protéger complètement des dangers du tabac. On sait aujourd'hui qu'ils sont davantage associés à la durée du tabagisme, c'est-à-dire au nombre d'années de tabagisme qu'à la quantité de tabac fumé. Donc l'arrêt complet du tabac doit rester l'objectif, même si on commence par diminuer le nombre de cigarettes fumées.
Et pour y arriver, certaines mutuelles remboursent en partie la cigarette électronique, tandis que les patchs et substituts nicotiniques sont, eux, pris en charge par la Sécurité sociale.
Afsané Saboui, spécialiste santé d'Europe 1, et face à la baisse des ventes de tabac en France, les 24 000 buralistes du territoire misent désormais sur d'autres services.
On pouvait déjà y acheter un forfait de téléphone, un billet de train et même payer ses impôts. On pourra désormais retirer de l'argent dans les bureaux de tabac. Une vingtaine de distributeurs sera mis en service dès le mois prochain chez les buralistes. Un service qui sera ensuite proposé à l'ensemble du secteur.
Ce réseau brassait une tonne de cocaïne par semaine, 64 personnes arrêtées en Belgique dans l'une des plus importantes opérations antidrogue.
Les criminels servaient d'intermédiaires entre l'Amérique latine et l'Europe. Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Belgique, un voisin devenu l'une des plaques tournantes du trafic de cocaïne sur le continent.
Oui, et c'est en partie à cause de sa spécialisation dans la logistique, explique très sérieusement le procureur fédéral belge. D'abord, il y a le port d'Anvers, l'un des plus grands d'Europe, mais Bruxelles est aussi un point névralgique sur le continent pour le transit de nombreuses marchandises. Les trafiquants ont su tirer profit de cette situation, explique Eric Jacobs, c'est le chef de la police judiciaire de Bruxelles.
Ça fonctionne comme un aéroport hub, c'est-à-dire on importe de partout dans le monde de la cocaïne ici, mais il faut l'extraire d'autres produits, comme ça on évite le scanner, etc. Elle vient ici, et là avec d'autres produits chimiques, on fait un processus pour extraire la cocaïne, et de là ça part, comme dans un hub, vers tous les aéroports ou des endroits par la route européens.
Cachée dans des fruits ou des poupées, la cocaïne arrivait d'Amérique du Sud par conteneur ou via des jets privés. Elle repartait ensuite vers la France, l'Italie ou l'Allemagne. 6 laboratoires ont été démantelés dans la capitale belge. Il en sortait une tonne de cocaïne par semaine, selon les enquêteurs. C'est la messagerie des trafiquants qui les a trahis. Elle a été décryptée il y a quelques mois par les polices belges, néerlandaises et françaises, ce qui a permis d'identifier les chefs du réseau. Des Colombiens ont même été arrêtés.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Ils sont à deux doigts de décrocher le prix le plus prestigieux de la littérature francophone. Le jury du Goncourt a dévoilé hier la liste du carré final.
Ils ne sont plus que 4, présentations des candidats avec notre spécialiste littérature Nicolas Caro.
En général, on ne cumule pas deux grands prix littéraires. En général, mais étrangement, l'Académie Goncourt a conservé Christine Angot dans sa dernière sélection, alors qu'elle venait tout juste de recevoir le prix Médicis. Peut-être est-ce un bon signe pour l'écrivaine favorite de cette rentrée littéraire avec Le Voyage dans l'Est, qui revient sur l'inceste qu'elle a subi. Autre grand favori sort Chalandon avec Enfant de salaud, un livre sur son père collaborationniste. L'écrivain cumule les prix depuis plusieurs années, Médicis, Académie française et Goncourt des lycéens. Louis-Philippe d'Alembert, auteur haïtien, est toujours dans la course pour Milwaukee Blues, qui s'intéresse aux violences policières en s'inspirant de l'affaire George Floyd. Et puis la surprise de cette rentrée, le challenger quasiment sur toutes les listes de prix, c'est Mohamed Sarr, jeune écrivain sénégalais pour La plus secrète mémoire des hommes, chez Philippe Ray. Résultat le 3 novembre.
Et résultat très attendu même, puisque le dernier lauréat du Goncourt, L'Anomalie d'Hervé Le Tellier, a été tiré à plus d'1 million d'exemplaires.
Merci beaucoup beaucoup Romain Oquet pour ce journal de 6h.
Il est 6h06 et on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange avec un remake ce soir.
Oui, et c'est assez inédit. Le 22 août dernier, l'affiche Nice-Marseille était interrompue suite à un envahissement de terrain. Eh bien, les 22 acteurs sont de retour ce soir, 2 mois après, à 3 et à 8 clos. Plutôt séduisant ces dernières semaines, les deux clubs espèrent l'emporter pour s'emparer de la 2e place du championnat. Écoutez l'entraîneur niçois, Christophe Galtier.
Il n'y a pas un sentiment de revanche. Je répète qu'il ne s'est rien passé entre les joueurs lors de la confrontation ici à Nice. Il y a simplement 3 points en jeu qui seront évidemment très importants parce que si nous avions le bonheur de l'emporter, on serait dans une position très agréable et très confortable.
Nice-Marseille, c'est à 21h au stade de l'Aube. Un résultat aussi, l'équipe de France féminine a écrasé le Kazakhstan hier, victoire 5-0.
Foot toujours et l'arbitrage de plus en plus critiqué.
Oui, avec le coup de gueule de la Ligue de football professionnel, manque de dialogue, problème récurrent avec la VAR, les griefs sont nombreux. Une réunion est d'ailleurs prévue mi-novembre avec les responsables des arbitres. Mais dès hier, la direction technique de l'arbitrage a organisé une opération séduction face aux journalistes. Et l'ancien arbitre Laurent Duhamel a notamment tenu à défendre l'assistance vidéo qui, selon lui, a corrigé 2 erreurs sur 3 depuis le début de la saison.
Quand on a quelque part la chance, quand on est arbitre de football, de haut niveau aujourd'hui en Ligue 1, d'avoir une intervention VAR qui va complètement vous soulager votre conscience après la rencontre, c'est forcément complètement bénéfique.
J-100 avant les Jeux Olympiques d'hiver, Martin.
Oui, avec une excellente nouvelle ce matin pour les hockeyeuses françaises. Leur fédération a validé la parité des primes de qualification aux JO. Concrètement, cela veut dire que si elles parviennent à se qualifier, les filles toucheront la même chose que les hommes malgré des subventions du CIO moins importantes. Une décision coûteuse donc, mais assumée par le président de la fédération, Pierre-Yves Gerbeau.
C'est un message fort. Nos femmes sont aussi importantes que nos hommes dans la stratégie de développement de la fédération. C'est fondamentalement important pour nous d'exprimer ces valeurs de base qui sont l'équité entre hommes et femmes à l'heure de l'équipe nationale.
Les hockeyeuses françaises qui tenteront d'obtenir leur billet pour Pékin lors d'un tournoi de qualification en Suède à la mi-novembre.
C'était le journal des sports de Martin Lange. Merci Martin.
Le sport, ce sont les exploits, mais pas que, malheureusement. Martin l'a rappelé à l'instant. Jet de projectiles, bagarres, envahissement de terrain. Les incidents se multiplient dans les stades de foot depuis le début de la saison. Comment l'expliquer? Réponse dans un instant avec le sociologue Romain Ourcade. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Il est 6h11, bon début de matinée sur Europe 1. Le match Nice-Marseille, interrompu en août dernier après l'envahissement de la pelouse, sera rejoué ce soir à huis clos et sur terrain neutre. C'est l'un des nombreux incidents dans les stades de football depuis le début de la saison.
Bonjour Nicolas Ourcade.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous, sociologue à l'École Centrale de Lyon et spécialiste du mouvement des supporters. Des supporters insupportables pour certains, à chaque journée de championnat on craint de nouveaux débordements. Comment expliquez-vous cette multiplication des violences depuis le retour du public dans les stades ?
Déjà il y a un constat, il est certain qu'il y a une succession d'incidents qui est relativement inédite. Moi j'ai pas souvenir de tant d'incidents depuis la saison 2009-2010, donc ça remonte à une plus de dizaine d'années. Et on a deux hypothèses pour expliquer ça. La première hypothèse, ce serait que c'est un phénomène conjoncturel, lié au retour du public dans les stades après les huis clos causés par la crise sanitaire. Et donc après des mois de privation, on sent une excitation exacerbée, ce qui donne à la fois le meilleur avec des ambiances qui sont très ferventes, mais aussi le pire avec des incidents très fréquents. Donc si c'est conjoncturel, on peut espérer que ces débordements se calment prochainement. La seconde hypothèse, ce serait que ce serait un problème plus structurel de radicalisation d'une partie du public des stades qui s'expliquerait à la fois par les rivalités entre groupes de supporters et par un climat anxiogène et tendu dans l'ensemble de la société. Et donc si c'est un phénomène plus structurel et plus durable, évidemment, c'est plus problématique.
En clair, certains iraient au stade pour exprimer un ras-le-bol qui n'a rien à voir fondamentalement avec le foot.
Je dirais pas ça comme ça. Les gens vont au stade pour voir un spectacle sportif, mais il y a à la fois des antagonismes entre groupes de supporters qui sont anciens et qui se ravivent avec le retour du public dans les stades. Et il peut y avoir un état de tension latent qui fait que le stade a toujours été un peu un défouloir, mais on a l'impression qu'il l'est encore plus qu'avant. C'est-à-dire qu'on a à la fois des comportements, comme je le disais, très positifs et des débordements très différents. On a eu des choses très différentes, des envahissements de terrain, des jets de projectiles, des bagarres entre supporters, des saluts nazis, enfin des choses qui n'ont pas forcément d'une cause commune. Et aujourd'hui, plus encore qu'avant, un défouloir pour certaines personnes, oui.
En tout cas, cette deuxième hypothèse est plus inquiétante que la première, qui, on l'espère, n'est que passagère. Il n'y a qu'en France qu'on assiste à ces incidents ou ça arrive aussi chez nos voisins ?
Non, ce qui renforce l'hypothèse conjoncturelle, c'est que les incidents, on les retrouve un peu partout dans tous les pays d'Europe, avec des incidents aussi en Angleterre, qui est souvent présenté comme un pays épargné désormais par les violences, mais il y a eu pas mal d'incidents, y compris en première ligue autour des matchs de première division anglaise. Donc c'est vraiment un problème européen, et qui s'explique par deux phénomènes différents mais liés. Mais d'une part, donc les tensions liées aux supporters, mais aussi une perte de compétences dans l'organisation des matchs. C'est-à-dire qu'on constate sur les matchs récents que l'organisation n'était pas toujours adaptée, et notamment il y a un problème qui a été pointé du doigt par un peu tout le monde, c'est le fait que les stadiers, donc ces personnels de sécurité privée qui officient dans les stades, sont moins expérimentés qu'avant la crise sanitaire, parce que beaucoup se sont reconvertis dans d'autres métiers, et on a des stadiers aujourd'hui assez mal payés, assez peu formés, qui sont donc pas forcément toujours compétents pour gérer les problèmes.
Ça veut dire que certaines de ces violences qui émaillent ce début de saison auraient pu être évitées, ou en tout cas mieux gérées ?
Oui, ça c'est certain. C'est-à-dire qu'on a deux problèmes. Un problème de radicalisation de certains supporters qu'il faut traiter, et à côté de ça, une meilleure organisation des matchs vers laquelle il faut tendre, puisqu'on n'a pas été optimaux, à la fois au sein des stades et aussi aux abords des stades, puisque certains débordements auraient pu être évités par les forces de police, par exemple.
La formation et la rémunération des stadiers, c'est la responsabilité des clubs qui ne mettent plus autant d'argent qu'avant dans la sécurisation des rencontres ?
Avant ça, c'est une problématique nationale, c'est-à-dire comment on fait en sorte que cette profession soit bien formée et bien payée. Ensuite, il est possible que certains clubs en difficulté financière suite à la crise sanitaire mettent un peu moins d'argent sur le pôle sécurité, évidemment. Mais fondamentalement, il faut une impulsion nationale à la fois sur la formation des stadiers, mais aussi sur des sanctions individuelles pour les fauteurs de troubles, car le véritable enjeu, c'est d'être capable de sanctionner les supporters violents, et pas forcément de sanctionner l'ensemble des supporters d'un club quand seule une minorité crée des problèmes.
Alors justement, vous le dites, qui dit incident dit sanction, match à huis clos comme ce soir, tribune fermée, voire retrait de points, ça c'est pour les clubs. Le problème, vous le dites, c'est qu'en parallèle, on n'a pas le sentiment que les fauteurs de troubles soient, eux, systématiquement condamnés.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer les sanctions contre les supporters violents et les sanctions contre les clubs. Actuellement, on insiste beaucoup sur les sanctions prononcées par la commission de discipline de la Ligue de football contre les clubs, mais cette commission, elle peut sanctionner que les clubs et pas les supporters. Donc sanctionner un club quand il a été défaillant dans l'organisation du match, c'est compréhensible. Implicitement, le club de Nice a reconnu que l'organisation du match Nice-Marseille était pas bonne et a accepté la sanction et le match à huis clos aujourd'hui. Mais aucun pays n'a lutté durablement contre le hooliganisme en sanctionnant uniquement les clubs. L'objectif principal, c'est d'être capable d'identifier les supporters violents, de les sanctionner et de les écarter des stades.
Pourquoi ça marche pas aujourd'hui ?
Pourquoi ça marche pas ? Peut-être parce que on dit beaucoup qu'il faudrait changer la loi, mais avant ça, il faudrait l'appliquer. On a à la fois des moyens législatifs qui permettent de sanctionner les individus qui créent des troubles dans les stades, et on a tout le dispositif technique avec la vidéosurveillance notamment pour les identifier. Le problème, c'est qu'il faut être conscient, c'est que ça a un coût. C'est-à-dire, si on veut écarter 100 supporters qui ont pénétré sur la pelouse, il faut les identifier et puis ensuite les sanctionner. Donc pour la police et la justice, ça représente un coût important, ils peuvent avoir d'autres priorités. Donc c'est pour ça qu'il y a différentes interdictions de stade, certaines prononcées par la justice pour les faits les plus graves, mais d'autres interdictions de stade peuvent être prononcées directement par les préfets, voire par les clubs, avec l'avantage d'être très réactif et d'être beaucoup moins coûteux, et avec un inconvénient, c'est que comme les droits des personnes visées par ces interdictions sont moins préservés, il peut y avoir des abus. En tout cas, l'enjeu, c'est de cibler les sanctions et qu'il y ait une vraie volonté politique au plus haut niveau de l'État pour mettre en place une vraie réponse face aux incidents qu'on connaît depuis le début de la saison.
Merci beaucoup, Nicolas Ourcade, de nous avoir éclairé sur ces incidents dans nos stades de foot. Je rappelle que vous êtes sociologue à l'École centrale de Lyon. Bonne journée et à bientôt sur Europe 1.
Bonne journée. Au revoir.
Il est 6h17 et sur Europe 1 à suivre la partition de Duran Duran.
Mamie, est-ce que tu t'inquiètes pour l'avenir ?
Tu sais, mon chéri, j'ai toujours eu cette lumière d'espérance en moi. C'est l'Église qui me l'a transmise. Cette petite lumière ne s'éteint jamais. Tu l'as, toi aussi.
Génial ! Merci, mamie.
Comme une évidence, je veux transmettre l'espérance. Je lègue à l'Église catholique.
Rendez-vous sur jecroisjelegue.catholique.fr.
Entre mes clients, mes fournisseurs, ma compta, mes démarches administratives... Mes journées ne sont pas assez longues. Dites, vous n'auriez pas une idée pour m'aider à tout gérer ?
Professionnel, La Poste Pro est à vos côtés pour vous accompagner dans votre quotidien. Découvrez toutes nos solutions pour développer votre business et digitaliser votre activité. Renseignez-vous à La Poste auprès de nos conseillers pro au 3634 ou sur laposte.fr/pro.
Les viandes de bœuf Label Rouge, par ceux qui en parlent le mieux.
Pour une bonne viande de bœuf Label Rouge, c'est simple. Il faut des animaux de nos terroirs, bien élevés, tout au long de l'année. Et puis aussi des éleveurs qui font leur métier avec passion et exigence. Et le plaisir, il est là, dans l'assiette.
Et donc vous êtes éleveur ?
Pas du tout, je suis artisan. Mais manger mieux, ça me parle. Et offrir une juste rémunération à nos éleveurs aussi. Pas vous ?
Les viandes de bœuf Label Rouge, le plaisir de manger mieux.
Choisir Amplifon pour son audition, c'est logique.
Dis mamie, on fait quoi quand il pleut ?
On prend un parapluie, c'est logique.
Et quand on a faim ?
On prend un goûter.
Et quand on entend moins bien ?
Alors là, on va chez Amplifon pour découvrir des aides auditives quasi invisibles. C'est logique.
Avec Amplifon, priorité à votre audition. Bénéficiez du 100% santé et de notre accompagnement à 100%. Prenez rendez-vous au 0800 134 134. Amplifon, solution auditive. Dispositif médical CE, l'offre 100% santé résulte d'une obligation légale. Demandez conseil à votre audioprothésiste.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h19 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, voici les principaux titres de ce mercredi avec Alban Le Prince.
Un symbole très fort, la France acte aujourd'hui la restitution au Bénin de 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey. Jusqu'ici conservées au musée parisien du Quai Branly, le lieu abrite des milliers d'œuvres africaines en partie pillées pendant la colonisation. Où sont les femmes ? Pas vraiment présentes à la tête des entreprises. Alors le Sénat examine aujourd'hui une proposition de loi sur la parité hommes-femmes qui prévoit 40% de femmes cadres dirigeantes en 2030 contre 27% aujourd'hui. Stupéfiante opération anti-cocaïne avec un vaste coup de filet en Belgique hier, mobilisant plus de 1500 policiers. 64 personnes ont été arrêtées, 6 laboratoires démantelés.
On termine comme chaque matin avec votre partition Omblin consacrée à l'un des groupes emblématiques du mouvement New Wave en Angleterre, Duran Duran, qui vient de sortir son nouvel album.
Et le groupe prouve ainsi qu'il est l'unique survivant d'un genre baptisé nouveau romantique. On va y revenir. Future Past s'appuie sur des bases solides forgées il y a 40 ans, c'est-à-dire des compositions synthé-pop, des guitares rock, des rythmes syncopés et surtout un visuel travaillé à l'extrême. J'en veux pour témoin le clip du single Anniversary, pendant lequel Duran Duran passe une folle soirée en compagnie de Madonna, Elton John, la reine Elisabeth II, du moins leur sosie.
L'esthétisme fait partie de l'ADN de Duran Duran.
Le groupe puise son inspiration dans le courant glam rock revendiqué par David Bowie. Il arbore des costumes avec vestes cintrées, épaulettes et chemises à volant, des yeux surlignés par un eyeliner. Les musiciens britanniques deviennent l'incarnation de la new wave romantique. Duran Duran véhicule une image cool, sophistiquée et balance des musiques synthétiques à la pointe de la technologie. Et puis on l'évoquait, les clips parfaitement soignés vont être sa meilleure vitrine au moment de l'avènement de la chaîne MTV, complice consentante de cette formidable ascension.
L'histoire de Duran Duran commence à la fin des années 70 à Birmingham.
Et dans l'une des discothèques les plus branchées de la ville, le nom vient du film Barbarella avec Jane Fonda, le personnage du savant fou. Juste après l'arrivée du chanteur londonien Simon Le Bon, qui deviendra et restera le leader du groupe, Duran Duran sort son premier album. Un succès qui se prolonge sur scène, les concerts se jouent à guichets fermés.
Et le deuxième album, baptisé Rio, fait encore mieux que le premier.
Rio qui sera désormais le maître étalon de son succès. Les musiciens se sentent vite dépassé par tant de ferveur, Duran Duran rencontre des difficultés qui auraient pu mettre la formation en déroute. Des démêlés avec le fisc, la drogue, la menace d'une séparation, les ventes décevantes des disques suivants. Mais le groupe fait mieux que survivre. Il est choisi pour enregistrer la chanson de James Bond, le film View to a Kill. Et en 1993, alors que le grunge indique le sens du vent, Duran Duran à contre-courant ne s'épanche pas sur son passé et se montre résolu à survivre dans un monde nouveau et, dit-il, ordinaire.
accidents once prompted you to stay. Pride will tear us both apart. Well, now pride's gone out the window, cross the rooftops, run away.
Avec l'un de ses succès les plus emblématiques, Ordinary World, le groupe est de retour avec un 15e album baptisé Future Past. Duran Duran qui a travaillé pour l'occasion avec notamment deux producteurs légendaires, l'italien Giorgio Moroder et le britannique Mark Ronson.
Du beau monde effectivement, merci Omblin. Du beau monde, il en arrive également dans un instant dans ce studio. A tout de suite avec Dimitri Pavlenko.
Europe Matin,
6h27, excellent mercredi à tous, avec nous sur Europe 1 et on vous dit, en ce qui nous concerne, à demain.
Oui, rendez-vous à 5h pour le plein d'infos et de bonne humeur. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien, bonjour
Omblin. Bonjour.
Ça va ? Parce que votre matinale se poursuit avec Dimitri, évidemment.
Et,